le magazine des Nations Unies. Bonjour, au sommaire de notre magazine des Nations Unies de ce jour, lutter contre le paludisme, un défi à relever en République démocratique du Congo. Docteur Bakary Sambou de l'Organisation mondiale de la santé en RDC l'a souligné mercredi dernier. Il était l'invité spécial de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Coup de pouce du PNUD au secteur de la microfinance de la RDC. Un atelier a réuni pendant deux jours à Kinshasa des représentants des structures financières de proximité pour parler notamment de la transparence. Une experte du programme d'appui au secteur de la microfinance au PNUD RDC nous expliquera l'intérêt de cet atelier. Retour en force de l'UNFPA, Organisation des Nations Unies pour la population dans la province de l'Équateur, après un temps de désengagement. Dans son sac, deux projets intéressants en faveur de la population. Les détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois de plus, bonjour et bon dimanche chez vous. Deux points font l'actualité de la semaine. Pour notre magazine de ce jour, d'abord, la situation des expulsés congolais venus du Congo-Brazzaville. Selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, environ 40 000 ressortissants de la RDC ont déjà été expulsés de Brazzaville. Ils sont pour la plupart originaires de l'Équateur et du Bas-Congo. Ces expulsés ont demandé au gouvernement de leur donner les moyens de transport pour faciliter leur retour dans leur province d'origine et déplorent les conditions de vie au site d'accueil aménagé au stade Cardinal Malula. Y aurait-il des réfugiés parmi ces expulsés? Céline Smith répond à Jean-Pierre Lali Ikoko.
Alors jusqu'à ce jour, et selon les informations que nous avons, il n'y a pas de réfugiés ni de demandeurs d'asile qui font partie des expulsés.
Vous avez vérifié?
Oui, nous avons vérifié des deux côtés de la frontière. Tout d'abord à Brazzaville. Nos collègues du HCR à Brazzaville sont en contact avec les autorités, mais également avec la police. Tout d'abord, pour rappeler que les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent pas être expulsés de la République du Congo, puisqu'on appelle ça le refoulement. Et également, nos collègues sont en contact avec la police pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de réfugiés ni de demandeurs d'asile parmi les personnes qui seraient expulsées. Et si, par mégarde ou par erreur, il y aurait des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui sont parmi les personnes qui se font expulser, nous intervenons pour faire en sorte que ces personnes ne prennent pas le bateau pour traverser jusqu'en RDC. Du côté de la RDC aussi, nous avons été hier dans le stade où ont été regroupés donc une équipe est allée sur place hier également pour voir avec la DGM s'il y avait des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui ferait partie des personnes qui sont là. Mais à ce jour, il n'y a pas de réfugiés ni de demandeurs d'asile.
Le deuxième point d'actualité de la semaine, c'est le rapport 2013 sur le paludisme dans le monde. L'Afrique a enregistré 80% des 207 millions des cas estimatifs du paludisme notifiés dans le monde et la RDC et le Nigeria représentent à eux deux 40% du total mondial. Au cours de la conférence de presse des Nations Unies, le docteur Bakary Sambou de l'OMS RDC a peint le tableau de la situation de cette maladie dans le monde et en RDC, Honoré Missenga Kalala.
C'est l'une des maladies les plus meurtrières. En 2012, 207 millions des cas du paludisme ont été enregistrés dans le monde, 627 000 décès, dont 90% en Afrique subsaharienne, 77% chez les enfants de moins de 5 ans et 80% dans 17 pays. C'est la région africaine qui continue de supporter la majeure partie du fardeau du palu, dont près de la moitié par deux pays du continent et parmi ces deux pays, la République démocratique du Congo, Dr Bakary Sambou.
Il faut retenir que la RDC et le Nigeria représentent à eux deux 40% du poids total du paludisme au niveau mondial. C'est pour vous dire que nous sommes dans un pays où le paludisme est une endémicité assez élevée. Le paludisme demeure un défi pour la République démocratique du Congo. Et les rapports du ministère de la Santé faits en collaboration avec les organisations montrent que en 2013, 11 363 817 cas de paludisme ont été enregistrés. Et sur ce, 30 918 décès ont été déplorés en 2013.
Au-delà des pertes en vies humaines, Le paludisme constitue aussi un fardeau économique et social important.
C'est la cause de pauvreté énorme au niveau des ménages et l'occasion des dépenses assez fréquentes. L'absentéisme au niveau du travail et l'absentéisme au niveau des écoles impactent négativement la performance des élèves. Donc le paludisme, ce n'est pas simplement un problème de décès, mais c'est aussi un problème économique extrêmement important.
Selon donc l'OMS, si on n'agit pas de façon conséquente sur le paludisme, il va être difficile d'atteindre notamment la cible 4 des OMD, objectif du millénaire pour le développement, c'est-à-dire réduire la mortalité des enfants.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Des représentants des institutions financières de proximité du pays, des coopératives d'épargne et de crédit et des instituts de la microfinance ont pris part cette semaine à Kinshasa à un atelier sur la transparence, le reporting et l'inclusion financière en RDC. Un forum co-organisé par la GIZ de la coopération allemande et le PNUD. Madame Elodie est chargée des innovations financières et genre au sein du programme d'appui au secteur de la microfinance au PNUD. Elle est notre invitée de ce magazine dans la rubrique décryptage. Elle s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Madame Elodie Nsamba Kamashi, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD a co-organisé la semaine dernière un atelier sur la transparence, le reporting et l'inclusion financière en RDC. Quels étaient les objectifs de cet atelier?
Oui, monsieur les journalistes, l'atelier qui a porté sur la transparence financière, le reporting et l'inclusion financière en RDC avait un triple objectif, à savoir comprendre la notion de transparence ainsi que les attentes, les objectifs et les avantages de faire le reporting, mieux les suivis et les partages des performances financières et sociales et permettre une meilleure visibilité des acteurs de la microfinance et de l'inclusion financière en RDC. Un deuxième objectif, c'était d'appuyer les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit dans leur reporting ou le suivi et partage de leurs données sur le MIX ainsi qu'à leurs bailleurs de fonds via cette plateforme d'information qui est le MIX. Et le dernier objectif, c'était d'encourager ces institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit à utiliser les outils du MIX Market pour évaluer leur propre benchmarking ou leurs indicateurs financiers et sociaux.
Le concept m'intéresse particulièrement. Il s'agit de la transparence et de l'inclusion financière. D'abord, la transparence, en quoi consiste-t-elle?
En fait, la transparence est en fait un gage de crédibilité et de fiabilité. Elle donne ou redonne la confiance aux femmes et aux hommes petits déposants et permet aux bailleurs d'avoir également confiance et de soutenir les institutions de microfinance. En fait, la transparence financière pour une institution de proximité, c'est rendre accessible au grand public ses performances financières et son impact social, ou mieux, diffuser publiquement ces informations institutionnelles, financières. Quand on parle des informations financières, on voit tout ce qui est des bilans et des comptes de résultats, ainsi que les informations opérationnelles, mais aussi les structures de financement, c'est-à-dire les informations sur les emprunteurs, les types de dettes, les taux d'intérêt, les échéances et la devise de prêt accordée aux IMF. Ainsi donc, l'institution s'expose ou expose aux yeux du public ses forces et ses faiblesses sur la performance de son portefeuille, ses pratiques comptables et les subventions, les financements reçus et la structure de son passif. Donc la transparence financière, c'est la transmission d'informations clés, fiables et à jour, présentées selon les normes de reporting du secteur de la microfinance.
Oui, j'allais demander, mais transparence vis-à-vis de qui?
Oui, transparence en effet vis-à-vis des membres ou de la clientèle de ces institutions de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit. Transparence vis-à-vis des partenaires. Transparence vis-à-vis des institutions pairs. Transparence vis-à-vis de la Banque centrale, du gouvernement et bref, de toutes les personnes ou les institutions qui souhaitent avoir accès à des informations fiables et contrôlées.
J'en viens au deuxième concept clé, l'inclusion financière. Qu'est-ce que c'est l'inclusion financière?
L'inclusion financière englobe un large éventail de produits et de services financiers, c'est-à-dire l'épargne, le crédit, les transferts d'argent, la microfinance offerte par une variété d'institutions saines et durables en direction des hommes et des femmes économiquement actifs à faible revenu à un coût raisonnable et dans un environnement sécurisé pour un cadre légal et réglementaire. Et donc diffuser publiquement ces données financières et sociales et pouvoir comparer ces indicateurs des performances avec celles des autres permet aux institutions qui développent cette culture de transparence à offrir de meilleurs services en termes de qualité et de pérennité et à construire la confiance des petits déposants, hommes et femmes. Donc quand on parle de l'inclusion financière, on voit toute une palette de services, une diversification des services offerts en direction des hommes et des femmes, des pauvres, des populations qui habitent dans les milieux ruraux et donc des faibles mais économiquement actifs. Au-delà de cette diversification de produits, on voit également les institutions qui les offrent, des institutions qui sont professionnelles, qui sont crédibles, qui sont viables et qui se font une concurrence saine. Mais l'essentiel, c'est vraiment que tous les pauvres, les personnes à faible revenu puissent accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins.
Madame Elodie Nsamba, dans un rapport d'activité sur la microfinance, la Banque centrale indique que 149 structures financières de proximité ont été recensées en 2012 pour plus d'un million de comptes, dont 52,7 détenus par les femmes. Êtes-vous satisfaite de ces données de la Banque centrale?
Oui, ces données sont assez satisfaisantes. C'est déjà un beau résultat obtenu dans les secteurs, mais cela traduit vraiment qu'il y a encore de besoins. C'est vrai que, comme ce rapport le dit, il y a 52% ou 53% de comptes qui sont ouverts, qui sont détenus par les femmes. Mais il est important de souligner qu'il y a des mesures qui doivent être mises au point pour que les hommes et les femmes aient un accès plus étendu à des services financiers diversifiés. Quand on voit la taille du pays, un pays de plus de 70 millions avec un peu plus d'un million de comptes ouverts, cela traduit une sous-bancarisation qui laisse entendre un grand potentiel non exploité.
Vous avez quand même un commentaire par rapport aux chiffres réalisés par les femmes. Près de 53% des comptes détenus par les femmes, c'est quand même quelque chose d'encourageant.
Très, très encourageant, comme je venais de le dire. C'est un très bon score qui est assez encourageant que les femmes demeurent majoritaires en termes de comptes détenus. Cependant, il faudra souligner que la tendance devra être maintenue parce que si nous devons comparer ces chiffres à ceux de l'année 2011, on note vraiment une contraction de la part de comptes détenus par les femmes parce que en 2011, les taux de comptes ouverts par les femmes auprès des institutions de proximité étaient de 68% et en 2012, c'est 53%. C'est vrai que les femmes demeurent majoritaires en termes de comptes ouverts, mais il y a des efforts à conjuguer pour pouvoir maintenir ou rehausser cette tendance en termes de comptes détenus par les femmes.
Madame Elodie Nsamba, merci de votre disponibilité.
Je vous remercie à vous également.
Nos nouvelles en plus bref, 6 soldats FRDC tués, 3 autres blessés, ainsi que 2 casques bleus de la MONUSCO blessés également. C'est le bilan d'une attaque mercredi dernier d'un poste opérationnel de la force onusienne et des positions de l'armée congolaise à Birero et Kishoga au nord Kivu. Une attaque attribuée aux combattants APCLS. Information donnée le même mercredi par le porte-parole militaire de la MONUSCO au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Tripartite RDC Ouganda, c'était encore mercredi dernier à Kampala. 3 importantes résolutions à retenir. L'identification des réfugiés congolais vivant dans les zones d'installation en Ouganda. L'assistance par le gouvernement congolais et le HCR aux rapatriés spontanés dans les localités de retour. Et sensibilisation par le gouvernement de la RDC de l'Ouganda des réfugiés congolais sur le rapatriement. Autre nouvelle avec l'UNOPS, reprise des travaux sur la route Bourale-Chabunda reliant cette contrée isolée à Bukavu. La cérémonie officielle de la relance des travaux a eu lieu le vendredi de la semaine avant en présence notamment de Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, et de Marcelin Chisambo, gouverneur de la province du Sud-Kivu. C'est UNOPS qui gère et réalise ce projet en collaboration notamment avec la MONUSCO et l'Office des routes. Enfin, hier samedi 3 mai, c'était la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, dans un message conjoint, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokoa, ont appelé tous les États, toutes les sociétés et tous les particuliers à défendre activement la liberté d'expression et la liberté de la presse en tant que droits fondamentaux et contributions cruciales à la réalisation des OMD, objectifs du millénaire pour le développement et la promotion du programme de développement pour l'après 2015.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Du 22 au 27 avril, le gouvernement, avec ses partenaires, dont l'UNICEF, ont lancé la 4e semaine africaine de la vaccination sous le thème « La vaccination est une responsabilité ». Dr Sylvie Louketa s'entretient justement avec nous à ce sujet. Dr Sylvie Louketa, bonjour.
Bonjour Madame Nicole.
Vous êtes spécialiste en immunisation à l'UNICEF. Alors quel est le message que vous avez véhiculé à travers cette campagne?
Merci beaucoup Madame Nicole pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'adresser au public. Cette semaine, c'est la semaine africaine de la vaccination avec comme thème « La vaccination est une responsabilité partagée ». Ici, je tiens à rappeler à tous les auditeurs qu'il y a jusqu'à ce jour des maladies qui peuvent être évitées par la vaccination, qui frappent beaucoup d'enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, et qui tuent encore beaucoup d'enfants. Et pourtant, nous avons la vaccination qui est à notre portée, qui peut nous permettre d'éviter toutes ces maladies et surtout éviter toutes ces morts. Ainsi, nous disons que c'est une responsabilité partagée parce que tous nous sommes appelés à pouvoir travailler dans la vaccination. Le gouvernement de son côté, qui met déjà à notre disposition les vaccins avec l'appui de ses partenaires, mais les parents aussi, c'est eux qui doivent amener les enfants pour les faire vacciner, pour les protéger.
Les parents ont leur responsabilité.
Ils ont leur responsabilité, oui.
Oui, mais j'imagine que vous avez des défis que vous souhaitez relever au cours de cette campagne, parce que dans bien des cas, il y a pas mal de parents peut-être qui hésitent.
Justement, parce que l'idée c'est que la vaccination se fait tous les jours. La vaccination dont nous parlons ici, c'est la vaccination en routine qui concerne les enfants de moins d'une année. Il y a les enfants qui naissent chaque année et la population estimée autour de 4%. Tous ces enfants qui naissent doivent être couverts par les programmes élargis de vaccination. Et bon, malheureusement, on n'arrive pas à atteindre tous les enfants. Et au courant de cette semaine, nous voulons mettre ça à profit pour sensibiliser le grand nombre de parents pour pouvoir amener leurs enfants à la vaccination et surtout à comprendre que la vaccination est importante pour sauver les vies des enfants.
Et vous comptez comme ça vacciner combien d'enfants ?
Chaque année, comme je vous ai dit, c'est les 4% de la population et nous avons environ 3 millions d'enfants attendus pour toute l'année. Mais comme je vous ai dit, la vaccination se fait tous les jours dans nos structures. Mais l'évaluation faite jusque-là, on n'a pas encore atteint le nombre attendu jusqu'au mois d'avril où nous sommes. Donc nous voulons récupérer ce nombre-là. Mais que d'ici fin décembre, nous puissions atteindre au moins 3 millions d'enfants avec tous les antigènes.
Ce n'est pas porte à porte comme ça se faisait dans le temps?
Non, ce n'est pas une campagne de vaccination comme la campagne de vaccination rougeole ou la campagne de vaccination polio. Comme je l'ai dit, c'est la vaccination qui se fait tous les jours au niveau de nos centres de santé et elle concerne les enfants de moins d'une année. Donc c'est les enfants qui naissent chaque année qui sont concernés et qui doivent recevoir les vaccins qui protègent contre 10 maladies au moins dans notre pays.
Mais c'est gratuit, non, pour les mamans qui n'ont jamais fait vacciner leurs enfants?
Justement, la vaccination est gratuite. Je crois que c'est l'occasion de le dire ici. La vaccination est gratuite. Je le disais au début, le gouvernement met à notre disposition les vaccins. Bien sûr, avec l'appui de ses partenaires. Et ces vaccins doivent être administrés gratuitement aux enfants. Et il est demandé aux parents d'amener les enfants au centre de santé pour les faire vacciner gratuitement, et ce qui permet de protéger ces enfants contre les maladies que je citais tout à l'heure.
Alors, chaque année, on vaccine des enfants, mais curieusement, le résultat escompté n'est toujours pas atteint et on est obligé de recommencer l'année suivante. C'est tout de même bizarre qu'on ait toujours à recommencer la même chose. C'est comme un cercle vicieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Ah, c'est intéressant la question. Chaque année, on vaccine, oui, chaque année, on vaccine, et chaque année, on doit vacciner. On vaccinera toujours et toujours. Comme je l'ai dit ici, la vaccination dont on parle maintenant, c'est la vaccination de routine. Elle concerne les enfants de moins d'une année. Or, vous savez que chaque année, il y a les enfants qui naissent. Donc, on ne peut pas abandonner ceux qui naissent aujourd'hui à leur triste sort. Ces enfants doivent être protégés. Ils naissent, ils n'ont pas suffisamment d'anticorps pour être protégés. Et de par le monde, tous les enfants qui naissent doivent être protégés.
Alors, parmi les difficultés rencontrées lors des précédentes campagnes ou opérations, il y a eu l'inaccessibilité de certaines zones enclavées. On le sait, la RDC est vaste. Il y a aussi un autre problème, la faible capacité de stockage de vaccins, mais aussi l'insécurité. Alors, qu'envisagez-vous pour surmonter ces difficultés durant cette campagne ou cette opération?
Les difficultés, oui. Il y a des difficultés sur lesquelles nous, on ne peut pas agir, comme l'inaccessibilité géographique ou l'insécurité. Mais il est vrai, comme pour toutes les autres campagnes, par rapport à l'inaccessibilité, nous faisons toujours un effort pour pouvoir atteindre tous les enfants. La structure peut être inaccessible par rapport à nous qui sommes à Kinshasa, mais par rapport à la structure qui vaccine, bien sûr qu'il y a des villages qui ont un accès plus ou moins difficile par rapport à la structure qui vaccine, mais nous avons aussi des stratégies de vaccination qui sont organisées, notamment l'approche atteindre chaque enfant. Donc il y a notamment les infirmiers des centres de santé qui font un déplacement vers les villages d'accès plus ou moins difficile pour atteindre ces enfants-là. C'est vrai que c'est encore un peu difficile. Les moyens logistiques, tu en as parlé.
On n'a pas
encore. Il reste encore faible, mais les efforts sont en train d'être faits.
Mais ce problème revient souvent. Beaucoup hésitent, surtout quand vous faites des opérations porte à porte. On voit un monsieur avec le frigo que vous mettez à leur disposition. Bon, on hésite un peu. Beaucoup de parents hésitent. Ils se disent, mais est-ce que ce vaccin est bien gardé dans ce frigo qui ressemble absolument à rien du tout? Est-ce qu'on peut faire confiance à un monsieur qui vient chez vous avec ce genre de vaccin?
Ce vaccin est vraiment bien conservé dans ces boîtes isothermes, comme nous les appelons. Mmh. Ils ont la capacité de conserver comme ça, même pendant 48 heures. Donc c'est un vaccin qui vient du réfrigérateur, quelque part, où il était conservé, et eux ne récupèrent ça que le matin, avec des accumulateurs de froid ou des blocs de glace qui aident à conserver dans une température bien donnée. Et ça, c'est contrôlé, parce que dans ces boîtes aussi, on met des thermomètres pour contrôler la température. Et de plus, sur les vaccins lui-même, il y a une étiquette qu'on a mis qui nous permet de dire si le vaccin est bon ou pas.
Merci beaucoup, docteur Sylvie Lukota. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en immunisation à l'UNICEF. Merci d'avoir répondu à nos questions, et à la prochaine.
Merci beaucoup, Madame Nicole. Au plaisir.
Une bonne nouvelle pour les habitants de Manlaka dans la province de l'Équateur. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA, annonce le financement de deux projets bientôt à l'Équateur. Le premier projet consiste à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, et le deuxième projet, la santé maternelle. Ce dernier projet cible le Nord-Équateur. Information livrée à Radio Kapi par le représentant ad intérim de l'UNFPA en RDC, Keita Oshashi, en mission à Manlaka. Il est venu pour une prise de contact avec les autorités provincial après un temps de désengagement de son agence à l'Équateur dans le cadre du démarrage de ses projets. Keita Oashi au micro de Ghislaine Netobo.
Le premier projet a les chiffres de financement de 1 million qui est financé par la Banque mondiale à travers le projet de PASS. Donc nous allons faire des activités liées avec la prise en charge médicale des victimes et puis la collecte de données de violences basées sur le genre et l'enforcement de capacités en général et puis à la coordination à travers la division de genre du ministère provincial de genre. Et puis le deuxième projet, c'est lié avec le financement du Japon. Le Japon nous a accordé aussi financement de 1 million dans le domaine de santé maternelle. D'ici décembre, nous allons appuyer quelques zones de santé que le projet a ciblées. Ce projet cible plutôt au nord de l'Équateur. Ce sont aussi liés avec les camps de réfugiés. Là-bas, avec l'arrivée de réfugiés, ça va aussi affecter quelques zones de santé qui sont aux frontières de la Centrafrique.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Bonsdawende Ouda Nembamogo. Je suis mère de deux enfants, donc mariée évidemment. Actuellement, je suis au niveau de l'unité technique de Radio Okapi. Permettez-moi de vous le présenter un peu. L'unité technique de Radio Okapi est composée de trois sous-unités. De services informatiques, la section studio qui s'occupe de la mise en onde et la section radio qui s'occupe de tout ce qui est émetteur. Donc moi je suis le responsable du service informatique et depuis décembre je suis en charge de l'unité technique comme intérimaire. Quelles sont nos activités journalières? Tous les jours nous commençons d'abord par une réunion de coordination. Dans cette réunion ça regroupe tous les trois sous-unités de la technique où chaque chef de section expose les problèmes qu'il y a dans les différentes sections et on essaie ensemble de trouver une solution aux problèmes qui sont posés et puis écouter des suggestions s'il y en a et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le travail journalier. Donc on discute de tout ce sujet chaque matin. Donc comme exemple au niveau du service informatique, les tâches journalières qu'on a, c'est assister les utilisateurs. Donc tous les problèmes qu'ils ont, qui ont après à l'utilisation des applications courantes telles que Lotus Notes, qui est le plus connu, et l'accès au shared drive qui cause un peu des problèmes, on résout les problèmes d'impulsion. Et tout ça, ça fait partie des activités journalières, sans rentrer en profondeur, parce que ce n'est pas que des activités journalières, il y a des activités qu'on ne fait pas tous les jours, notamment en ce qui concerne le monitoring des serveurs, vérifier qu'on n'a pas des attaques aussi sur le réseau et puis essayer de protéger notre réseau, la gestion de la ligne Internet, les routeurs, et j'en passe, et notamment la gestion des serveurs Windows 2008 serveurs, il y a l'Unix, les serveurs d'application. Au niveau de la section studio, il y a tous les techniciens qu'on a là qui s'occupent de la mise en onde. Donc, on essaie de voir s'il y a eu des problèmes avec les journalistes, à quoi on a failli, si ça s'est bien passé le service, et puis on essaie de porter des petits touches s'il le faut. Voilà, donc ça c'est au niveau de section studio. La qualité du son que ces techniciens aussi veillent à ce qu'il y ait une bonne qualité qui passe à l'antenne. Donc, au niveau des émetteurs, ça couramment nous écoutons les feedbacks des différents secteurs. Si Radio Okapi est coupée dans un secteur, nous devons réagir rapidement en organisant une mission avec un technicien qui va aller sur le terrain. Donc il y a ça. Bon, il y a aussi des demandes que nous recevons d'installation de Radio Okapi. Donc la dernière demande, notamment, c'était celui de Pinga, dont Radio Okapi a main. Voilà, c'est en gros les activités qu'on a au niveau du service technique. Mes temps libres, je regarde la télé, je pars à l'église pour prier parce que je suis une chrétienne pratiquante. Donc c'est ce que je fais de mes temps libres. Comme divertissement, j'aime écouter la musique chrétienne. Je regarde aussi quelques feuilletons, les news, essayer de savoir ce qui se passe dans le monde. Les agents religieux. Je préfère ne pas entonner pour ne pas me tromper parce que c'est beaucoup plus en lingala. Je préfère m'en passer vraiment. Mais sinon, je les adore. Les perspectives d'avenir, j'ai plein de projets pour l'avenir que je préfère ne pas dévoiler. L'avenir nous le dira. J'ai fait les études primaires à Yako. Yako, c'est un village du Burkina Faso. Donc, c'est l'école Yako Mix du Burkina. Je les ai fait là-bas. Où ça a été sanctionné par le certificat d'études primaires au bout de 6 ans. Et les études secondaires, je les ai fait toujours au Burkina Faso, précisément à Yako, pour le premier cycle. Je l'ai fait au lycée provincial de Yako, c'est un établissement public où ça a été sanctionné par le BPC. Le BPC, ça veut dire brevet d'études du premier cycle. Donc après le BPC, je me suis déportée à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, où j'ai fait une partie de mes études secondaires au collège protestant de Ouagadougou et ensuite au CEFIG. CEFIG, c'est Centre d'études et de formation en informatique de gestion. À la fin de mes études au CEFIG, j'ai eu le BPI, qui est le BEP informatique, et un bac H, qui est un bac, le H pour dire informatique, le baccalauréat informatique. Bon, ensuite, les études universitaires, je les ai effectuées à l'ISIG, l'Institut supérieur d'informatique de gestion, à Ouagadougou toujours, qui est devenue aujourd'hui Université Aube Nouvelle. J'ai obtenu au bout de la deuxième année 1 d'EIT, diplôme universitaire de technologie, et ensuite j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur de travaux informatiques équivalent à la licence, si on veut parler globalement. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai eu à travailler dans mon pays, beaucoup de stages à la BCAO, Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai eu à développer une application pour la gestion des frais médicaux de la BCAO. Ensuite, je suis allée à la SGBB pour la troisième année. Et ensuite, il y a une société où je suis passée, qui n'existe pas aujourd'hui, qui s'appelle IT Consult. Là-bas, j'ai fait quand même 6 mois de stage où j'ai développé un groupe pour sous-gérer Linux qui permet une collaboration dans les entreprises. Et par la suite, j'ai travaillé à Hugotech, une société d'informatique toujours, avant de m'envoler pour Guinée-Bissau, où j'ai travaillé avec le PAM. Donc, j'ai fait une année au sein du PAM. J'ai fait une année au sein du PAM avant de venir à la MONUSCO. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question du jour porte sur les refoulés de Brazzaville. Elle a été posée mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa et c'est Sylvestre Tumba Mudingai, chargé de OCHA, qui a répondu. Suivez la question et la réponse.
Je voulais poser ma question aux humanitaires. Je suis étonnée de ne pas vous entendre parler de la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa. Des Congolais refoulés de Brazzaville commencent déjà à poser des problèmes humanitaires dans les lieux où ils sont entassés. Au stade Cardinal Malula, on parle déjà de la précarité, de besoins alimentaires et des lieux d'aisance. Ma question est celle de savoir si vous avez déjà établi un plan d'intervention en ces lieux.
Par rapport à cette question de personnes expulsées, il faut bien distinguer ce qui est humanitaire dans la situation et ce qui ne l'est pas. La première préoccupation au niveau des humanitaires que nous avons eue, c'était notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de s'assurer que parmi les personnes expulsées, il n'y avait pas des réfugiés congolais qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve Congo ou encore des personnes qui étaient dans un processus de demande d'asile. Au point où on en est, nous n'avons pas eu des informations comme quoi ces personnes aient été particulièrement touchées par cette vague d'expulsion. Pour le reste, il y a, je crois, des concertations, mais peut-être que si vous vous approchez des collègues du HCR ou de l'OIM, vous pouvez avoir plus de précisions par rapport à cette question-là. Mais la première préoccupation pour nous, c'était être sûr qu'il n'y a pas des réfugiés et des personnes en demande d'asile qui figuraient parmi les personnes expulsées.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Au moins 4 rendez-vous des journées mondiales de la semaine qui commencent. 5 mai, c'est déjà ce lundi, la journée mondiale de la sage-femme. Le 7 mai, la journée mondiale des orphelins du sida. Et puis le 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge. Cette émission a été coordonnée par Jean-Pierre Elali et également connu la participation d'Honoré Missenga à la mise en onde de Mimi Kindou. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve prochainement pour une autre édition. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Au micro, c'était Nicole Ngakam. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.